Radio Starbeck.
Morning edition from NPR News.
Radio Rosanna Pipadino.
Que se reproduce en la radio.
France Inter, le 18-20.
À table, l'escale reportage d'un jour dans le monde vous emmène dans les cuisines de Massimo Bottura en Italie, chef multi-étoilé. Arrêtez ce que vous êtes peut-être en train de préparer. Le chef va vous donner deux ou trois idées pour accommoder les restes de Noël, mais pas seulement, il a aussi un projet très important à vous confier et vous l'entendrez. 18h40, le feuilleton écolo du mardi, et sans dit dauphin, alerter les poissons, un traité international va être signé pour la protection de la haute mer. C'est pas fait encore, vous le verrez. 18h45, la revue de presse des correspondants à Berlin ce soir et puis au Japon avec une bataille de sumo à coups de télécommande de télé, je vous jure que c'est vrai. 18h55, l'édito de Christophe Ayat du journal Le Monde et la montée en puissance de la Chine pour toute cette année 2017 et on verra la suite. Mais maintenant, à force d'en parler, il est peut-être temps d'expliquer cette monnaie virtuelle, cette crypto-monnaie dont on parle tant, le bitcoin qui semble dégringoler, inquiéter les argentiers. Comment ça marche, à quoi ça sert? C'est tout de suite, le monde est vaste et on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Saint-Fès, un jour dans le monde.
Allez, bah oui, on parle d'argent ce soir, c'est un peu téléphoné, je le reconnais, mais enfin, quand les Pink Floyd ont écrit ce morceau, ils pensaient plutôt au billet vert ou plutôt à la livre anglaise. D'ailleurs, nous, on est 2.0 ce soir et c'est le Bitcoin qui nous intéresse. Le Bitcoin, c'est une révolte, cette monnaie virtuelle qui a vu le jour en 2008. C'est peut-être plus qu'une révolte, même une révolution, puisqu'elle secoue le monde de la finance et qu'elle secoue tout court. D'ailleurs, bonsoir à vous, Renaud Lipschitz. Lipschitz, pardon, autant pour moi. Vous êtes expert blockchain, on va expliquer ce que ça veut dire assez vite. Vous êtes membre de l'association Le Cercle du Coin, les monnaies électroniques sont votre jardin. Et c'est d'ailleurs vous qui avez un peu présenté le Bitcoin à son arrivée en France. Et si on en parle ce soir, c'est parce que, enfin, vous avez présenté le Bitcoin en France, parce que son arrivée évidemment était antérieure. Si on en parle, c'est parce que cette monnaie virtuelle, après avoir crevé beaucoup de plafonds, 20 000 $ le Bitcoin, semble tomber aujourd'hui. On s'interroge, on s'inquiète, je ne sais pas. J'ai beaucoup de questions très naïves à vous poser, parce qu'effectivement, tout le monde en parle sans savoir réellement de quoi on parle. Est-ce que c'est une vraie monnaie, d'abord, le Bitcoin? Alors, ça ne fait pas le bruit qu'on vient d'entendre, mais c'est une vraie monnaie quand même ou pas?
Alors, c'est une monnaie électronique, hein, comme c'est un réseau. Il y a deux usages. Un réseau, ça permet d'échanger des informations, et une monnaie, ça permet de faire des achats, d'avoir des contreparties en biens ou en services. Donc, c'est sur ces deux aspects-là que c'est intéressant.
Donc, ça veut dire que je peux payer en Bitcoin ou pas? Et où, surtout?
Alors, tout à fait, on peut payer en Bitcoin. À ceci près que récemment, en fait, il y a eu un tel engouement pour le Bitcoin que les frais de transaction se sont envolés, puisque le réseau s'autorégule. Et quand il y a beaucoup de transactions, ben, faut payer pour utiliser le réseau. C'est comme un réseau autoroutier, hein, où faut payer le péage. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec des frais de transaction qui sont plutôt élevés, de l'ordre de 20 € par transaction. Donc évidemment, il va pas être très intéressant de payer une baguette.
Voilà. Donc pour caricaturer, si ma baguette coûte 90 centimes d'euros, mais que je décide de la payer en Bitcoin, elle me coûte 20 €.
En ce moment, c'est un petit peu compliqué avec cet engouement et ces frais de transaction, effectivement, bien qu'il y ait des solutions techniques, mais pour l'instant, c'est plus pour faire des achats de gros biens de consommation que pour acheter sa baguette de pain tous les jours. Mmh. On a vu récemment des achats immobiliers se produire aux États-Unis ou à Dubaï ou au Canada. On trouve des agences de voyage, des agences de location.
Qui accepte le Bitcoin aujourd'hui, en fait? Vous disiez, je peux acheter une maison éventuellement, je peux partir en voyage. Qui accepte le Bitcoin? Comment ça marche?
Alors, il y a pas mal de commerçants qui acceptent le Bitcoin. Hein, sur bitcoin.org, qui est le site officiel, vous avez une rubrique « Comment dépenser mes bitcoins » qui listera thématique par thématique, en fait, les commerçants qui acceptent le Bitcoin. Si on vise la France et plus précisément la région parisienne, on a pas mal de bars, de restaurants qui acceptent le Bitcoin, typiquement. Et puis, des sociétés de services, que ça soit de l'art déco, des agences de voyage, des agences de location.
Et est-ce qu'on sait, Renaud Lipschitz, combien il y en a aujourd'hui en France? Si on se dit, par exemple, il y a, 10 bars, 5 bars, 20 bars, 100 bars qui acceptent le Bitcoin, bars comme bistrot ou restaurant,
Alors, il y a plusieurs centaines d'établissements qui sont recensés hein, sur Bitcoin.org et puis sur un site qui s'appelle CoinMap qui propose une carte hein, des établissements qui permettent
de
payer en Bitcoin.
Mais en France, on aime ça ou est-ce qu'on est plus en retard que les Allemands ou que les Anglais en situ comment ?
C'est pas le pays où c'est le plus développé. Hein, dans les pays nordiques, très clairement, et aux États-Unis, il y a beaucoup plus de commerçants qui acceptent le Bitcoin. C'est pas le pays le plus développé, mais on a quand même en France des centaines de commerçants qui l'acceptent. Et sur la région parisienne, on va dire une cinquantaine de commerçants qui acceptent cette monnaie-là.
Et comment je m'en procure ? Est-ce que c'est facile ? On va sur un site et on échange bêtement des bitcoins contre l'argent qu'on a sur notre compte en banque ? C'est aussi simple que ça ?
Alors oui, ça peut être basiquement aussi simple.
J'ai senti votre hésitation.
Ça peut être aussi simple que ça, à ceci près que en fait, les commerçants en général n'acceptent pas que vous achetiez des bitcoins en carte bancaire parce que vous pouvez faire opposition sur votre carte bancaire tout de suite après avoir payé,
hein,
en prétextant qu'elle a été volée, alors que les transactions en bitcoin sont irréversibles, hein, c'est-à-dire comme elles sont pas contrôlées par des établissements bancaires, on peut pas annuler une transaction. Donc les gens se méfient quand vous voulez en acheter en carte bancaire. Donc généralement, c'est soit en achat physique. On a par exemple à Paris la maison du Bitcoin, hein, qui est un guichet sur lequel vous pouvez acheter et vendre un guichet physique.
Mais
hein,
en liquide, en chèque
En espèces. Hein, okay. Vous payez espèces sonnantes et trébuchantes.
D'accord.
Et vous repartez avec vos Bitcoins dans un porte-monnaie électronique. Et puis on vous expliquera d'ailleurs comment les stocker sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Ou alors, effectivement, par virement bancaire sur des plateformes d'échange, puisque ça a tout à fait cours en euros ou en dollars. Donc vous pouvez faire un virement bancaire. C'est un petit peu plus long, mais c'est un petit peu moins cher aussi.
Mais quand vous dites que c'est irréversible, est-ce que ça veut dire que je peux les vendre quand même ou pas, en fait ? Donc je peux spéculer sur mes propres bitcoins, en fait.
Ah oui, bien sûr. Comme toute monnaie, son taux de change varie par rapport aux autres monnaies. Par contre, le taux de change varie beaucoup plus hein, que l'euro-dollar, hein, qui peut bouger d'1% par jour.
Oui, il y a beaucoup de yo-yo sur le bitcoin.
Sur des variations de 10 ou 15% dans la journée. Donc effectivement, il y a un risque important de change.
Ça veut dire que vous ne conseilleriez pas de thésauriser sur du bitcoin, d'investir dans du bitcoin? Est-ce qu'on peut conseiller réellement ou est-ce que c'est trop yo-yo pour l'instant, donc trop dangereux en fait? Il faut être un peu geek et un peu joueur pour l'instant, ou pas?
Alors, il faut être un peu geek, c'est certain. Je ferai pas de conseils financiers, bien évidemment, c'est pas mon rôle. Hein. Mais à mon sens, le Bitcoin a encore un bel avenir devant lui. Là, le Bitcoin est relativement cher hein, pour l'acheter maintenant. C'était plus intéressant de l'acheter il y a quelques années, évidemment. Mais je pense qu'il a encore un bel avenir, ou tout du moins ses petits cousins, parce qu'il y a eu plein de monnaies électroniques similaires maintenant qui sont aussi relativement intéressantes.
Alors effectivement, vous le dites, il est cher. Il y a pas si longtemps que ça, le rapport était un Bitcoin pour combien ? Presque 20 000 $.
Ouais.
Ça s'est cassé la figure de manière assez conséquente ces deux derniers jours. On est quoi, autour de 12 000 $?
On est autour de 13 à 14 000 voilà. euros maintenant,
voilà,
donc un petit peu plus.
Et alors, est-ce que c'est inquiétant ça ou pas ? Est-ce que vous, le spécialiste, vous vous dites « Ouh là là, une baisse pareille, c'est un peu inquiétant » ou est-ce que c'est le principe du Bitcoin de yoyoter comme ça ?
Disons que le Bitcoin monte très très vite. Hein. Donc qui dit ça monte très très vite, dit forcément il y a un moment ou un autre les investisseurs ils prennent leurs bénéfices. Surtout que maintenant il y a de plus en plus d'investisseurs professionnels qui sont sur ce marché-là, puisqu'on a une ouverture du marché des futurs aux États-Unis sur le Bitcoin, qui s'est institutionnalisé notamment sur les places de Chicago. Et donc du coup là on est arrivé sur des phénomènes vraiment professionnels où les traders avant de partir en vacances ferment leurs positions. Hein, vendent tout ce qu'ils ont, simplement parce qu'ils ne conservent pas leur bitcoin pendant les vacances.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on
Ça amplifie un petit peu cette baisse. Mais en tout cas, une baisse de 20%, comme on a vu là, n'est pas du tout préoccupante. Par le passé, on a déjà connu des baisses bien plus importantes. Et là, on le voit d'ailleurs, les pertes ont quasiment été effacées aujourd'hui et hier. Hein. On est revenu au cours de la semaine dernière.
Mais effectivement, vous le disiez, on spécule. Les traders, vous avez employé ce mot-là, ferment leur compte quand ils partent en vacances ou à d'autres moments. La naissance du bitcoin, l'idée de départ, ça date d'il y a une petite dizaine d'années, c'était vers 2008, c'était quelque chose de plus égalitaire, de plus stable, qui devait échapper justement aux grandes banques et à tous ces marchés financiers. C'était presque un mouvement social, le Bitcoin, au final. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça n'est pas complètement galvaudé pour devenir quelque chose de purement spéculatif comme n'importe quelle autre monnaie ?
Alors effectivement, le Bitcoin est né suite à la crise des subprimes, hein, une crise de défiance vis-à-vis des établissements bancaires, où on a cherché à développer une monnaie qui ne dépende pas des établissements bancaires, des banques centrales, et dont le cours soit juste menée par la demande et l'offre, hein, comme devrait être n'importe quel bien de consommation, et dont le cours puisse pas être manipulable du coup par aucun État ou aucun organisme privé. Et c'est pour l'instant, à l'heure actuelle, c'est quand même relativement le cas. Simplement, on a un tel engouement et une telle bulle qu'effectivement, bah, il y a des prises de bénéfices régulièrement, donc il y a des chutes régulières qui peuvent être assez vertigineuses, mais à chaque fois qu'on a connu une chute de 20, 30, voire 40 ou 50% l'histoire du Bitcoin, il s'est relevé. Donc c'est bien une bulle. Mais une bulle n'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Quand on regarde
éclate,
la bulle,
hein. Une bulle, ça éclate.
Quand on regarde la bulle Internet, ça a éclaté. Hein. Il y a des startups qui en ont payé le prix. Par contre, c'est toujours quelque chose qui aujourd'hui est en pleine expansion. Hein. Toutes les entreprises sont sur Internet maintenant.
Mais Renaud Lifitz, dès qu'on parle spéculatif, est-ce qu'on n'est pas passé du côté obscur de la force, en fait ? Ce qu'on voulait justement éviter en créant le Bitcoin, est-ce qu'on n'est pas en plein dedans ?
Je ne sais pas si on l'a voulu l'éviter. On a voulu avoir un système indépendant, un système monétaire qui est indépendant, hein, non contrôlé, non contrôlable par les États, les banques centrales, les organismes privés. C'est toujours relativement le cas sur Bitcoin. Par contre, là où on a des difficultés, c'est en termes de gouvernance. C'est-à-dire que qui change les règles dans Bitcoin ? Est-ce que ce sont les développeurs ? Est-ce que ce sont les utilisateurs ? Est-ce que ce sont les mineurs, donc les ordinateurs qui participe à la sécurisation du réseau. Et là, c'est plus compliqué. Dès qu'on veut faire évoluer un petit peu les règles, typiquement, par exemple, baisser les frais de transaction pour une adoption plus massive, c'est plus complexe parce que comme il y a beaucoup d'acteurs, on n'a pas défini qui avait le droit de vote en quelque
sorte
et qui va changer les règles.
Pardon de le dire comme ça, qui est le patron, en fait ? Qui décide à un moment ? Qui est je vais dire une hérésie, qui est la banque centrale du Bitcoin qui joue avec les taux exactement comme une banque centrale le fait ?
Ben, l'avantage du Bitcoin et aussi son défaut, c'est qu'effectivement, comme il n'y a pas d'organisme régulateur, ce sont des ententes. Donc, on consulte régulièrement les mineurs, hein, donc les ordinateurs qui sécurisent le réseau.
On consulte les ordinateurs, donc en même temps, on consulte le logarithme. C'est ça l'idée, en fait.
On consulte, on consulte les grands acteurs hein, qui sécurisent hein, le réseau Bitcoin à l'heure actuelle.
Mais
hein,
c'est
les mineurs.
Qui c'est ces gens ?
Alors,
ces choses.
Il y a les développeurs du projet original, hein, il y a les utilisateurs qui peuvent être consultés sur les forums, hein, via des sondages un peu informels, et on consulte aussi les mineurs, c'est-à-dire les ordinateurs qui vont sécuriser le réseau, qui vont miner du Bitcoin, hein, fabriquer de la monnaie, faire de l'inflation monétaire. Et ce sont des entreprises hein, derrière, souvent, hein, qui entretiennent ces fermes de minage. Et beaucoup sont situés en Chine à l'heure actuelle parce que le prix de l'électricité est peu cher. Hein, donc il y a des fermes de minage très importante en Chine, c'est trois quarts environ des mineurs à l'heure actuelle.
Parce qu'effectivement, vous venez de l'évoquer, c'est très énergivore. Expliquez-nous pourquoi c'est aussi énergivore. Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop d'ordinateurs qui travaillent en même temps ? C'est ça l'idée ? Pourquoi autant d'énergie ? Il paraît que le Bitcoin, c'est l'équivalent de la consommation d'électricité du Maroc. C'est vrai ça ? C'est un bon chiffre ?
Oui, c'est à peu près ça. Le Bitcoin, c'est à peu près l'équivalent de consommation électrique d'un pays moyen, tout à fait. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Hein, la création de monnaie, de pièces, de billets est tout à fait comparable hein, en termes électriques. Si on regarde la consommation électrique, par exemple, des distributeurs de billets...
Oui, mais sauf qu'il y a beaucoup plus de gens qui utilisent les billets que de gens qui utilisent le Bitcoin.
Oui, mais si on remplaçait une monnaie physique par le Bitcoin, ça serait exactement, au final, on n'aurait pas consommé plus... la création de la frappe de pièces, de billets, le transport de ces pièces, de ces billets, la distribution, etc. C'est à peu près le même niveau de consommation. Donc c'est très comparable au final. On voit qu'on est sur les mêmes ordres de grandeur.
Sandy Dauphin qui vient de s'installer, qui s'occupe d'environnement pour Un Jour dans le Monde et pour France Inter, trouve que votre empreinte carbone est bien importante. On parle beaucoup en ce moment de régulation, en fait. Faut-il réguler ou pas ? Peut-être pour éviter un crash ou pas. D'abord, est-ce qu'il peut y avoir un jeudi noir du Bitcoin ? C'est possible ça ou pas ?
Oui, il peut y avoir des crises de confiance si effectivement il y a des régulations trop fortes, trop brutales, hein, ou des interdictions, ou des taxations qui sont extrêmes.
Il y en a des interdictions déjà.
Ça a été le cas en Chine. Hein, il y a eu une première crise parce que effectivement le Bitcoin a été temporairement interdit en Chine avant d'être partiellement réintroduit. Où là, il y a eu une crise. Hein, il y a eu une baisse brutale du Bitcoin puisque la Chine est quand même un acteur très important dans l'écosystème. Pour l'instant, ça s'est pas reproduit. Et là, ça dépendra en fait des avis politiques. européen sur la question. Et je pense qu'il faut pas trop réguler, pas trop rapidement, hein, c'est l'avis d'ailleurs de la Commission européenne, le Bitcoin pour pas tuer dans l'œuf simplement les innovations qui pourraient découler hein, de cette invention-là. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'innovations dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui font leur levée de fonds sur la blockchain, sur Bitcoin, et qui ont pu récupérer des dizaines ou des centaines de millions d'euros pour derrière employer des gens dans l'économie réelle. Hein. Donc il y a des vrais impacts sociétaux derrière.
Hein. Mais ce que ça veut dire, c'est que les marchés financiers peuvent être déstabilisés par une chute ou par une disparition du Bitcoin ou pas, en fait ? Si ça se cassait la figure subitement, est-ce que ça peut ressembler à une autre échelle, à la crise de 2008 ?
Probablement pas. Il y a moins d'ancrage hein, dans la vie réelle, hein, dans la finance réelle sur Bitcoin. Donc il y aurait des entreprises qui en souffriraient. Ça serait des PME, surtout des startups hein, qui se basent beaucoup là-dessus. Et puis évidemment des particuliers hein, qui auraient acheté du Bitcoin en étant peut-être imprudents et en ayant souscrit un prêt ou en ayant hypothéqué leur maison, comme on a vu. Donc ça c'est quand même extrêmement dangereux. Hein. La base de l'investissement, c'est toujours investir ce qu'on peut se permettre de perdre. Hein. Il faut jamais investir plus.
Vous parlez comme un vrai spéculateur, voire comme un trader, Renaud Lifshitz. Vous êtes expert blockchain. Ça veut dire quoi, expert blockchain ?
Alors, comme je disais, le Bitcoin, c'est à la fois un réseau et une monnaie. Mmh. La monnaie, c'est bien, il y a pas mal d'usages, mais c'est aussi un réseau. Et la partie réseau, ce qu'on appelle la blockchain, et d'ailleurs pas que le réseau Bitcoin, il y a d'autres réseaux. Hein, on compte à plus d'un millier de monnaies électroniques. Alors, il y en a qu'une cinquantaine qui ont une réelle utilité. Mais derrière, sur ces réseaux, il y a des usages. Il y a des usages d'échanges d'argent en euros, en dollars directement, hein, donc pour les banques, où les échanges se font instantanément. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un virement bancaire, c'est 24 ou 48 heures pour recevoir son argent. Si on passe par une blockchain, donc un réseau ad hoc hein, pour le transport de fonds électroniques, c'est des transactions qui peuvent avoir lieu en 10 ou 15 secondes. Donc c'est extrêmement rapide et avec des frais très très réduits. Donc la blockchain, c'est tous les usages de ces réseaux distribués. Des usages qui peuvent être de l'échange d'argent, mais aussi du vote électronique, par exemple, du dépôt de preuve, de la preuve d'antériorité pour les artistes. Hein, je veux prouver que j'ai écrit une œuvre avant peut-être une éventuelle publication. Je peux déposer une preuve sur la blockchain, et comme c'est un registre qui est distribué et qui est copié et qui est répliqué partout dans le monde, bah, cette preuve-là va être copiée 10 000 fois dans le monde et tout le monde va pouvoir le voir, puisque c'est un grand registre qui est lisible par tous.
Une dernière question. Moi, je suis toujours intrigué. Comment on fait pour créer une monnaie ? Ça veut dire que si demain, moi, je veux créer le Fab Gold, voilà, et tout le monde paiera avec, j'ai le droit, je peux le faire, comme on a créé le Bitcoin à un moment. Comment ça marche, en fait ?
Oui, tout à fait. Bah, la plupart de ces projets-là sont complètement ouverts. Hein, donc, vous disposez du programme et vous pouvez le modifier. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant de crypto-monnaies à l'heure actuelle. Hein, on dépasse les 1000 crypto-monnaies parce qu'il y en a beaucoup, en fait, qui sont simplement des clones. Hein, et les gens ont juste changé le nom. Hein, donc, on trouve le Trump Coin, le Putin Coin.
Ah bah voilà.
et tout plein d'autres monnaies tout aussi fantaisistes les unes que les autres. Mais il est tout à fait possible de copier un projet, effectivement, de changer son nom et de changer ses règles aussi d'usage et de le lancer. Et si vous créez un certain usage derrière réel, un certain intérêt à cette monnaie-là, ben, ça va favoriser l'adoption et peut-être ça décollera.
Eh ben, écoutez, Renaud Lifshitz, merci beaucoup. Vous serez le premier au courant quand j'aurai créé le Fab Gold avec lequel on pourra donc tous se faire payer. Merci mille fois. Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
France Inter, Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite, c'est bien plus prosaïque. Ça se passe dans les cuisines de Massimo Bottura, le grand chef italien. Le feuilleton écolo du mardi et Sandy Dauphin. Enfin, une bonne nouvelle alors, Sandy.
Eh bien, écoutez, oui, les Nations Unies ont enfin décidé de préparer un traité international pour protéger la haute mer. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est un peu comme le syndic de copropriétaires, mais quand même, ces eaux internationales représentent les deux tiers des océans et certains y font n'importe quoi en ce moment.
Eh bien, écoutez, vous serez aussi intéressé, Sandy, d'apprendre que dans la revue de presse des correspondants, que les pétards sont très utilisés en Allemagne, les pétards pour les feux d'artifice, hein, mais très polluants aussi, figurez-vous. Nous irons également au Japon, pays de célibataires apparemment. Le tour du monde est en cours. Attention à la fermeture des portes, éloignez-vous de la bordure du quai. Voici Nina Simone.
Ain't got no work, ain't got no job, ain't got no mind.
Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life.
Power Hit Radio.
Magic FM.
Era la radio.
Desservi Prispo.
60 Minutes.
Le retour de Virginie Pironon sous les radars avec l'info internationale qui vous a échappé. On commence en Tunisie, Virginie, où les enfants de la Révolution se battent contre la discrimination au lycée.
Et leur combat dure depuis la rentrée au mois de septembre. Des filles du lycée pilote de Bizerte, établissement public d'élite situé au nord du pays, réclament la fin du port de l'uniforme. Une blouse bleu marine qu'elles sont les seules à porter et jusqu'au bas du dos, s'il vous plaît, alors que les garçons, eux, sont libres de s'habiller comme ils le veulent. Siwar a 18 ans et malgré les menaces de renvoi. Avec ses copines, elle a décidé qu'elle ne la porterait plus, cette blouse. Elle s'est confiée à Tunis, à l'agence France-Presse.
Notre problème, ce n'est pas le tablier en lui-même. Ce n'est pas ça le véritable problème. Ce que nous critiquons, ce sont les raisons pour lesquelles le tablier est porté par les filles uniquement. Si le tablier était imposé à tout le monde, il n'y aurait pas de critique.
Oui, car le message, c'est bien cacher ces formes que nous ne saurions voir. Contradictoire pour la Tunisie, pays considéré comme pionnier dans la région pour le droit des femmes et où l'égalité entre les sexes a été inscrite dans la Constitution en 2014.
Et on poursuit avec la Fédération israélienne des échecs privée d'un tournoi international à Riyad.
Avec des joueurs tout simplement privés de visa par l'Arabie Saoudite. Ils sont 7, 5 hommes, 2 femmes, à avoir fait une demande pour participer au tournoi mondial du roi Salman de partie rapide et blitz prévu à Riyad à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi. Demande refusée donc. Selon les règles de la Fédération internationale des échecs, un pays ne peut pas normalement priver des joueurs, quelle que soit leur nationalité, de participer à une telle compétition. Mais l'Arabie Saoudite ne s'est pas privée de le faire. Outre Israël, elle voulait interdire d'entrer également les joueurs d'échecs du Qatar et de l'Iran. Mais là, un compromis a été trouvé. La fédération israélienne, de son côté, réclame des compensations pour ces joueurs qui, dit-elle, subissent un préjudice professionnel et financier.
Et au Mexique, Virginie, voilà un homme qui critique un baron de la drogue sur YouTube et qui finit le corps criblé de balles.
José Luis Lagunas, 17 ans, était devenu une star au Mexique sur les réseaux sociaux. Libération raconte son histoire. Installé à Culiacán, capitale du Sinaloa, plaque tournante du trafic de drogue dans le nord du Mexique, Lagunas, ado rondouillé, s'est fait connaître par des vidéos hilarantes, déguisé en parrain, ivre et armé jusqu'aux dents. Il a fait rire des millions de Mexicains jusqu'à la phrase de trop diffusée sur YouTube il y a quelques semaines. A mí el mencho me pela la verga, el mencho me pèle le jonc, ou encore éloigner les enfants, je m'en bats les couilles d'El Mencho. Sauf que le fameux El Mencho, au Mexique, est un des plus gros barons de la drogue. José Luis Lagunas, 17 ans, je le rappelle, est donc mort abattu lundi dernier de 15 balles de fusil mitrailleur. Il a rejoint la liste des 26 000 morts violentes de l'année au Mexique liées au trafic de drogue. Celui qui était surnommé le pirate de Culiacán ne fera plus jamais rire les Mexicains.
Saludos a la plebada que se encuentra en Culiacán. Con ellos estoy en uno y decirlo está de más. Siempre ando bien pirata.
Allez, sous les radars, Virginie Pironon, merci beaucoup. Vous revenez demain.
Konnichiwa.
France Inter.
A Konku Tolo.
A Bombeshbayo.
Le 18-20. Un jour dans le monde.
Et le reportage d'un jour dans le monde ce soir nous emmène en Italie au fourneau. Mais pas n'importe quel fourneau, on est en cuisine là, vous l'entendez peut-être, les cuisines de Massimo Bottura, c'est à Modène, le chef italien le plus réputé du moment, multi-étoilé, et pas seulement, puisqu'il monte aussi à travers le monde des restaurants pour les plus démunis, parce qu'il n'y a pas de raison que tout soit cher quand on est super chef. Mathilde Imberti, vous avez rencontré Massimo Bottura, qui au passage nous annonce sur France Inter qu'il ouvrira en mars prochain l'un de ses restaurants pour démunis à Paris. Chaque chose en son temps, allons donc d'abord faire un tour en cuisine.
Oui Fabienne, Massimo Bottura nous a ouvert les portes de l'Osteria Francescana, son restaurant à Modène. Sacré meilleur restaurant du monde en 2016, 3 étoiles Michelin. On commence notre tour par la cuisine. 20 personnes sont au travail dans un espace qui n'est pas immense mais évidemment très bien organisé. La précision, la minutie, la cuisson à la seconde sont de rigueur pour des plats qui s'apparentent à des compositions graphiques. Il faut voir ces croustillantes lasagnes, ces sauces multicolores jetées, ça c'est la touche Bottura dans des assiettes impeccables. Et à l'heure des desserts, c'est un Français qui intervient.
Bah moi je m'appelle Robin Girard, j'ai 23 ans. Moi, je m'occupe essentiellement de la pâtisserie.
Quelles sont les pâtisseries pour lesquelles les gens viennent ici chez Massimo Bottura?
La tarte au citron. L'histoire de la tarte au citron du sous-chef Taka, qui pendant le service a fait tomber une tarte au citron par terre. Et du coup, c'est devenu le dessert phare du restaurant, le dessert signature du chef Massimo Bottura.
Rappelez-nous comment il s'appelle ce dessert?
Oups, j'ai fait tomber la tarte au citron.
C'est pas trop la pression de travailler dans le restaurant où on fait des kilomètres pour venir manger?
Si. On a un certain standing à respecter, les gens payent très très cher, attendent une prestation sans faute, mais je dirais que c'est de la bonne pression. Le travail est fait, dans la bonne humeur, c'est ce qui fait que les plats sortent aussi bien et aussi bons.
Il est temps de se rendre chez le chef, qu'en cuisine on dit certes relax, mais exigeant et un peu fou. Massimo Bottura nous attend dans son bureau, lui il a fini le service, on va le brancher, plat de fête et projet pour 2018.
Massimo Bottura, bonjour.
Bonjour France.
Massimo, comment ça va ces jours-ci? Ce sont les fêtes de fin d'année, beaucoup de monde dans votre restaurant comme toujours?
Oui, c'est réservé jusqu'à avril. C'est fantastique.
C'est Noël, le jour de l'an, les vacances, nos auditeurs ont un peu plus de temps pour cuisiner. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner avec les ingrédients qu'on trouve en ce moment aussi?
Mathilde, ce que j'ai dit, je te donne deux conseils mais pour les jours après Noël. Je pense au panettone, qui est très fort aussi en France. Ce que tu peux faire avec ce qui reste de panettone, des gaspillages de panettone, on va faire un soufflé. On prend les panettones, on a un peu de lait ou crème. On va monter des jaunes d'œufs avec un petit peu de sucre. On va ajouter à la crème de panettone les jaunes et très délicatement les blancs à neige. Et on va cuire à 180, 10-12 minutes. C'est un mi-cuit de panettone, une sauce au jus d'orange, que c'est la saison, au mandarin, c'est fantastique. Aussi, je pense au pot-au-feu. C'est très classique en Italie et en France. Dans ces jours, on va hacher et faire un remplir de ravioli et faire cuire le ravioli dans un jus de volaille et cuire le ravioli comme un risotto. Et finir tout avec du parmigiano gratiné. Ça, c'est une chose incroyable, un mix de l'Italie et de la France ensemble.
Vous nous conseillez de faire une farce avec les restes du chapon, oui. De la viande que oui. L'on n'aura pas consommée
oui.
À Noël.
Oui, c'est exactement ça.
Vous avez un amour pour le non-gaspillage.
Ma grand-mère m'a dit ça, et le gaspillage c'était une chose profane, comme on dit en Italie. Quand tu es enfant et tu travailles comme ça et tu penses comme ça, ce n'est pas possible d'avoir du gaspillage.
Parlez-nous de vos projets en 2018 et de ce projet qui vous rend si heureux, ce refettorio, cette cantine très particulière que vous allez ouvrir à Paris, Massimo.
Mais c'est une chose incroyable. On va ouvrir une chose, une cantine dans les cryptes de l'église de la Madeleine. Et on va faire ça avec tous les grands chefs français. Il sera Ducasse, Romain, Pascal Barbeau, Gagnère, Passard, Yannick Alénaud, Christiane, Guy Savoie, Michel Troigros.
Ce sera ouvert aux personnes sans-abri, aux personnes défavorisées en tout cas?
Oui, il sera ouvert la nuit pour personne qui n'a rien, mais aussi les grands chefs qui démontreront qu'est-ce qu'on peut faire avec des ingrédients comme ça. Et je pense que quand on fait des choses comme ça, on reçoit beaucoup plus de ce qu'on va donner. Et je l'ai vu à Milan, je l'ai vu à Rio de Janeiro, je l'ai vu à Londres. Et après à Paris, on va ouvrir Naples. Et pour moi, c'est une chose fantastique.
Merci Massimo Bottura, merci. On va vous souhaiter une très belle année 2018. Auguri.
Grazie mille, merci à tout le monde.
Ben oui, merci à vous Mathilde Imberti aussi, la fameuse cantine de Massimo Bottura dont il vient de parler pour les personnes en difficulté qui ouvre donc à Paris, ce sera en mars prochain, l'occasion évidemment d'en reparler sur France Inter. Au même moment d'ailleurs sortira le livre français de Bottura qui s'appelle Le pain et or, et puis je vous signale quand même au passage que les deux recettes qu'il vous a données, eh bien si vous voulez tester, elles sont sur la page d'un jour dans le monde sur le site de franceinter.fr. Voilà, c'est dit.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Synthèse.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série le mardi, le feuilleton environnement de Sandy Dauphin. Sandy, vous venez nous voir en général suivi par un nuage de pollution. Et ben bonne nouvelle, cette fois, en tout cas pour les océans. Avant-hier, le 24 décembre, pendant le réveillon, 140 pays sont enfin tombés d'accord sur le principe d'un nouveau traité international pour protéger la haute mer. Le principe, hein, ça veut dire que les négociations débutent en septembre. C'est pas tout de suite, mais c'est déjà ça.
Oui, car aussi incroyable que cela puisse paraître, la haute mer représente les deux tiers de l'océan, pratiquement la moitié de la planète, et pourtant c'est une zone de presque non-droit. Comme ces eaux internationales n'appartiennent à personne, ou plutôt à tout le monde, eh bien certains y font n'importe quoi. Du dégazage, de la pêche illégale, du trafic de drogue. En haute mer, les déchets plastiques s'accumulent. Et puis, il y a aussi la question de l'accès aux ressources génétiques du grand large. Les organismes marins intéressent de plus en plus l'industrie pharmaceutique. Comment octroyer les brevets, partager les bénéfices? Aujourd'hui, il existe bien évidemment des institutions internationales, des textes qui protègent les océans, mais il y a des trous dans la raquette. Prenons la Convention de Montego Bay, l'un des textes de référence sur le droit de la mer. Il remonte à 1982, à une époque où les préoccupations environnementales n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et puis en plus, cette Convention des Nations Unies ne s'applique qu'aux fonds marins, pas à la colonne d'eau, c'est-à-dire à tout ce qu'il y a entre le fond de l'océan et sa surface.
Et pourtant, Sandy, il faut quand même rappeler que notre survie même dépend de la santé des océans.
Oui, la moitié de l'oxygène que nous respirons est fabriquée par des phytoplanctons, ces microalgues. L'océan est un grand régulateur du climat. Il absorbe 30% des émissions de CO2 de la planète, un super puits de carbone encore plus performant que la forêt. Mais on ne sait pas jusqu'à quand l'océan va pouvoir digérer toujours plus de dioxyde de carbone, car cela provoque une acidification de l'eau et menace la biodiversité, à commencer par les organismes à squelette calcaire, comme les coraux, mais aussi les moules et les huîtres.
Et pour protéger la biodiversité en haute mer, les États vont donc enfin se mettre autour d'une table.
Oui, ce dimanche 24 décembre, veille de Noël, les Nations Unies ont offert un cadeau de Noël à l'océan. Ils ont adopté une résolution qui autorise l'ouverture des négociations pour un nouveau traité. Cela fait des années que les scientifiques, les ONG réclament ces nouvelles règles. Reste à connaître le contour de ce traité. Certains pays de pêche, comme l'Islande, le Japon, la Corée du Sud, voudraient bien qu'il n'englobe justement pas la pêche. Les négociations débutent en septembre prochain pour se terminer, on l'espère, en 2020.
Bah, écoutez, tout ça c'est bien long quand même. Merci beaucoup Sandy Dauphin dans Un jour dans le monde. LCD Sound System sur France Inter Tonight.
Everybody sing the same song. It goes tonight, 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 tonight. I never realized these artists thought so much about dying. But truth be told, we all have the same end. Could make you cry, 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 cry. But I'm telling you, this is the best news you're getting all week. Oh, sure, it's ruling the airwaves. What remains of the airwaves? And we're frankly thankful for the market psychology you're hipping us to. Is everybody feeling the same stuff? We're all wild, except for you. And you know who you are. This is a love song. Yeah.
LCD Sound System sur France Inter Tonight.
France Inter, un jour dans le monde.
Les correspondants de France Inter lisent la presse en VO pour vous ce soir. C'est en Allemagne que l'on commence. Bonsoir Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Cyril, l'hiver promet d'être chaud en Allemagne sur le front social. Voilà que le puissant syndicat de l'industrie qui s'appelle IG Metall réclame des augmentations de salaire sacrément confortables. Et puis alors là, c'est beaucoup plus surprenant dans un pays comme le vôtre, la semaine de 28 heures.
Oui, ce serait une petite révolution. Alors, seule une partie des salariés allemands serait concernée dans certaines branches de l'industrie, de la filière automobile ou de la métallurgie. Mais le syndicat IG Metall fait monter les enchères. Son chef, Jörg Hoffmann, promet les premières grèves à partir de février si le patronat n'accepte pas de discuter d'ici là. Alors, le syndicat sent position de force pour négocier avec les très bons chiffres de l'industrie et un taux de chômage au plus bas. Il réclame donc 6% d'augmentation de salaire et surtout une baisse choisi de la durée du temps de travail jusqu'à 28 heures hebdomadaires contre 35 aujourd'hui. Le salarié pourrait adapter sa propre durée de travail en la planifiant à l'avance sur 2 ans. Pour l'instant, le patronat freine des quatre fers. Selon la presse, il faut s'attendre à la négociation la plus dure de ces dernières décennies, avec à la clé peut-être un conflit social d'une ampleur inédite depuis 15 ans.
Et tout ça, en tout cas, peut-être pas tomber dans l'oreille d'un sourd chez nous. La surprise de Noël, Cyril, la toute première interview dans la presse du très discret monsieur Sauer, c'est le mari d'Angela Merkel.
Monsieur Merkel, comme l'avait baptisé Nicolas Sarkozy, l'époux de la chancelière. Toujours très discret, il évite de se montrer publiquement avec sa femme. On l'aperçoit parfois quand il accompagne dans les sommets internationaux, mais jamais il ne prend la parole. C'est donc un petit événement de le voir accorder un entretien au quotidien Berliner Zeitung. Rien à voir, cela dit, avec une interview confession à la Paris Match. C'est avant tout le chimiste prof d'université à la retraite qui s'exprime. Joachim Sauer réussit l'exploit de ne pas citer une seule fois Angela Merkel, c'était la condition sine qua non pour que l'entretien ait lieu. Il est donc question de sa spécialité, la chimie quantique, de ses travaux de chercheur, de ses conférences aux États-Unis, de l'état de l'enseignement scientifique à l'université, bref, de sa carrière à lui. Mais c'est l'occasion pour les lecteurs allemands de mieux connaître un personnage qui est encore très mystérieux aux yeux du grand public.
Allez, et puis Cyril, une tradition à laquelle on ne peut pas déroger, les feux d'artifice et autres pétards du Nouvel An. Chez vous, en Allemagne, vous êtes très très gros consommateurs et les chercheurs sont formels, il paraît que c'est une catastrophe pour l'environnement alors.
C'est à lire dans le Spiegel cette semaine une enquête sur la pollution provoquée par ces feux d'artifice. Les Allemands font une consommation astronomique. 137 millions d'euros dépensés en 2016. Tout le monde y va de sa fusée, de ses pétards tirés dans les rues depuis les balcons des appartements. Résultat, le 1er janvier au matin, le ciel des grandes villes allemandes ressemble à celui de Londres au temps de Dickens. Des concentrations records de particules fines, 5000 tonnes libérées dans l'atmosphère. Ça représente 17% de la quantité annuelle pour l'ensemble du trafic automobile. C'est un désastre. Et pourtant, écrit le Spiegel, les politiques ne veulent rien changer à la loi, extrêmement permissive. Tout le monde a le droit de faire exploser ce qu'il veut à la Saint-Sylvestre, y compris des engins énormes. Il y a chaque année des accidents, une trentaine de blessés dans des explosions mal maîtrisées, mais rien à faire. Les Allemands sont attachés à ce moment de défoulement collectif, décrit par un chercheur comme une régression prépubère. Alors que faire ? Interdire ? Réglementer ? Non. La seule solution, estiment les experts, c'est de pousser les fabricants de feux d'artifice à inventer des produits propres, sans particules fines, autant dire qu'on n'en est pas là.
Voilà, le pétard propre, c'est pas pour tout de suite. Merci beaucoup Cyril Sauvageau. À Berlin, nous allons au Japon. Bonsoir Tokyo, bonsoir Frédéric Charles.
Les médias japonais.
Bonsoir Frédéric Charles, mais c'est pas grave, on va commencer à entendre Frédéric Charles qui veut nous parler des deux grandes obsessions japonaises en ce moment. On l'écoute.
Les médias japonais ont deux obsessions et ils n'arrivent pas à s'en défaire depuis des semaines. Non, ce n'est pas la Corée du Nord, ces essais nucléaires. Non, les deux grandes obsessions médiatiques japonaises, ce sont une bagarre entre deux champions de sumo d'origine mongole lors d'une soirée arrosée dans un bar de luxe. L'un des lutteurs mongols reconnaît avoir porté des coups avec une télécommande de karaoké, mais il nie avoir brisé une bouteille en verre sur la tête de sa victime. Les lutteurs mongols dominent le sumo et ce n'est pas apprécié des médias, du moins les plus insulaires d'entre eux. Et ces médias de reprocher à ces étrangers peu civilisés de ne pas comprendre les subtilités du sumo, sa tradition légendaire. Elle remonte à la lutte entre deux divinités. De ce combat allait sortir vainqueur le dieu qui engendra la lignée, la famille impériale japonaise. L'autre obsession des médias japonais, c'est la présentation de Xiang Xiang, le bébé panda, au public du zoo de Tokyo. Impossible d'échapper à ce bébé panda 6 mois après sa naissance. La presse japonaise la plus sérieuse, se demande, elle, si le Japon, en cette fin de 2017, est en passe de devenir une société super solo. Selon les statistiques, près de 35% des garçons et des filles de 25 à 39 ans sont célibataires et n'ont pas de partenaire régulier. Selon l'auteur de la société Super Solo, un best-seller en 2017, les hommes gagnent moins et ne trouvent pas d'épouse. Les femmes gagnent plus, sont plus intelligentes, mais elles ne trouvent pas l'homme qui leur convient. Enfin, beaucoup de garçons et de filles pensent que tomber amoureux, c'est fastidieux. Il y a autre chose à faire dans la vie, mais rassurez-vous, cela ne veut pas dire que ces célibataires Super Solo ne font pas l'amour.
Et nous voilà rassurés, Frédéric Charles. Merci beaucoup. L'édito d'Un jour dans le monde, c'est Christophe Ayad, chef du service international du journal Le Monde. Bonsoir Christophe. L'événement de l'année 2017 pour vous, c'est la montée en puissance de la Chine.
Bonsoir Fabienne. Oui, j'ai pas mal réfléchi à 2017 et c'est vrai qu'il y avait l'embarras du choix. Entre l'affaire Weinstein, la défaite de l'État islamique, Jérusalem et j'en passe, j'ai bien hésité. Et finalement, j'ai choisi la Chine. Peut-être parce que j'y étais en visite en septembre et que j'ai été surpris par les changements dans ce pays que je n'avais pas revu depuis 13 ans. 13 années à l'échelle de la Chine, c'est comme un siècle. Tout a changé. En 2004, Pékin était le symbole d'un pays en voie de développement accéléré. En 2017, Pékin est la riche capitale d'une puissance sûre d'elle-même et dominatrice, pour paraphraser le général de Gaulle.
Alors, et quel était le but de votre visite en Chine, Christophe ?
C'était pour participer, Fabienne, à un colloque très officiel sur le thème des routes de la soie. À vrai dire, le colloque n'avait pas grand intérêt, mais ce qui était impressionnant, c'était le nombre des journalistes invités. Près de 400 venus des 5 continents. Cela donne la mesure des ambitions chinoises. La Chine veut devenir une puissance mondiale. De l'Australie à l'Afrique, de l'Amérique latine à l'Europe, Pékin veut faire entendre sa voix et diffuser son modèle. Il y avait un seul grand absent à cette réunion. Les États-Unis, comme si Pékin ignorait délibérément son principal rival. En fait, les deux vont de pair. Pendant que Donald Trump rétrécit l'Amérique, Xi Jinping, lui, il agrandit la Chine.
Alors justement, cette fameuse route de la soie dont vous parliez, c'est quoi d'autre sinon qu'un projet commercial ?
C'est une façon pour la Chine de redessiner la carte du monde. Pas moins. L'Inde, par exemple, la grande rivale de la Chine en Asie, est contournée, encerclée par les routes de la soie, côté pakistanais et côté sri-lankais. Enfin, les routes de la soie sont aussi le moyen pour Pékin de diffuser son modèle de gouvernance à base de libéralisme économique et de répression politique. Comment ça se passe ? On voit les premiers effets. La Grèce, par exemple, où Pékin contrôle le port du Pirée, s'est opposée au sein de l'Union européenne à une condamnation de la Chine pour ses atteintes aux droits de l'homme. Il faudra à l'avenir compter avec la Chine. Et pas seulement une Chine qui veut faire du profit, mais une Chine qui veut dicter les nouvelles règles du jeu mondial.
Christophe Ayad du journal Le Monde, merci beaucoup, à très vite. Le 18-20 continue avec Le Téléphone Sonne dans un instant, il est 19h.